Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cet audio consacré à notre ego. Ah là là, cet ego, on en parle à toutes les sauces, mais quel est-il vraiment? Je vais vous livrer ici quelques notions, quelques définitions qui sont avant tout personnelles, le fruit de mes recherches et des vérités jusqu'ici menées par les expériences de ma vie. Ce ne veut pas dire que ce sont des vérités totales à prendre telles quelles, mais ça peut être une base de piste de réflexion pour vous à mener plus loin ou dans une autre direction. Surtout, voilà, ne prenez pas ça pour une vérité comptant. Tout simplement, voilà, on l'utilise pour soi, selon ce qu'on sait déjà, selon les résonances qui peuvent être soulevées. Ressenti en fonction de notre propre vécu. D'après mes recherches, l'ego serait apparu en même temps que l'humain a développé son énergie mentale, ce qu'on appelle également le corps mental, et cela date d'il y a plusieurs millions d'années. Donc, ça fait très longtemps. Avec l'énergie mentale, nous a été offert, eh bien, le pouvoir de choisir, ce qu'on appelle le libre arbitre. Et nous avons choisi de donner beaucoup de place au mental dans notre évolution. Et nous avons utilisé cette énergie aussi pour créer ce fameux ego. Alors, à la base, peut-être que nous, en tant qu'humains, nous pensions que l'ego, eh bien, nous serait utile, très utile. Et c'est pour ça qu'il existe, hein. Mais il a, peu à peu, pris le dessus sur notre puissance, sur notre pouvoir, et nous l'avons laissé faire. Nous l'avons laissé dicter nos vies, et chaque réaction, alors je dis bien réaction et pas action, chaque réaction, eh bien ça va être l'ego qui va prendre le dessus. Pourquoi? Pour éviter de nous voir souffrir. Parce que l'ego, c'est une énergie mentale, une énergie qui se souvient que dans un cas plus ou moins identique que ce que l'on est en train de vivre et selon laquelle on va réagir, notamment un souvenir qui date de l'enfance, eh bien, il va voir la ressemblance, il va se souvenir que nous avons souffert dans une situation quasiment identique. Et pour nous éviter cette souffrance, il va prendre les commandes et il va réagir. On ne va plus agir, on va être sous le fait d'une réaction, d'un réflexe créé par cette énergie mentale. Une situation donc considérée comme un danger par le passé continue d'être considérée comme un danger par l'ego tant que bien nous le laissons faire, ou on lui donne les rênes, ou on ne l'éduque pas différemment. L'ego peut même influencer notre réalité, la façon dont on voit les choses, et nous faire croire pendant des années à une autre version des événements. Si plusieurs personnes vivent un même événement, par exemple, on va voir qu'il y a plusieurs versions différentes de la chose. Par exemple, plusieurs enfants dans une même fratrie, dans une même famille, pourront avoir une autre vision des mêmes principes éducatifs formulés par les mêmes parents, peut-être même au même moment, selon leur âge, selon leur personnalité, leur individualité, selon leur histoire personnelle, et donc les souvenirs plus ou moins douloureux. Et donc l'ego va changer non seulement notre action en réaction réflexe, mais aussi notre perception. J'aime beaucoup ce qu'en dit Lise Bourbeau, hein. Elle dit que l'ego, c'est comme un kyste, mais situé au niveau du mental. Il y puise de l'énergie mentale, et cela va nous affaiblir. Il va prendre en plus notre énergie. Donc, il influence nos actions, il influence nos perceptions, et en plus, il est consommateur d'énergie, il nous affaiblit. Pour le moment, il n'a pas forcément un rôle très positif dans l'histoire. L'ego peut être aussi vu comme la somme de toutes nos croyances. C'est ce qui explique pourquoi nous ne voyons pas toujours quand il prend le contrôle, que c'est lui, par exemple, qui va parler ou agir, parce que il va justement agir sous le sceau de nos croyances. Et ce qui fait qu'on pense au moment où il va agir, donc dans ses réactions réflexes ou dans ses perceptions, eh bien on va penser qu'il a raison. Donc qu'on a raison, qu'il est dans le vrai, et comme je vous le disais, on va être fatigué parce que l'ego va nous prendre de l'énergie au moment où il intervient. Et en fait, vraiment au moment pile, on va plutôt avoir l'impression inverse d'être galvanisé, plein d'énergie, de pouvoir, et notre être tout entier, comme ça, va subir une grosse inflation, comme quand on peut le ressentir quand on a l'émotion de colère, et qu'on exprime cette colère, et qu'on est un être tout puissant. On va ressentir ça, mais au bout de la journée, tout de suite après que cette émotion soit passée, on va être totalement épuisé. Donc on va être épuisé, mais aussi à ces moments-là où on a cette inflation, on va manquer clairement de jugement, de conscience, de discernement. Et surtout, on ne va pas avoir conscience du nombre, de la fréquence dont toutes nos croyances vont être les maîtresses, vont diriger nos comportements. L'ego va toujours se sentir seul contre tous, comme s'il était un petit peu en guerre, en croisade, pardon, pour démontrer non seulement au moi, mais carrément au monde entier, sa légitimité d'existence. Donc tout ce qui l'intéresse finalement, c'est lui, c'est sa petite personne, cette petite énergie, et il ne va penser que dans un mode moi-je. Et ça va être un indice puissant de détection. Parce que si vos pensées, si nos pensées tournent autour de je comme je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, je ne ferai pas ça comme ça, j'en ai assez, j'ai pas besoin de ça, eh bien c'est un je qui critique et pas un je qui va être factuel, comme par exemple je vais faire des courses. Donc factuel qui est descriptif, qui décrit quelque chose à quelqu'un, qui explique, etc. Là, on a véritablement un je qui critique soit l'autre, qui ne fait pas comme nous, on le devrait à sa place, ou qui va nous critiquer nous-mêmes, comme oh là là, ben, je mange trop, ou ah ben, j'ai pas assez bu de la journée à nouveau, j'ai pas fait mes 1,5 litres, oh là là, je suis nulle, etc. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une critique et une observation? Parce que des fois, on peut se dire, oui, eh ben, j'ai effectivement pas assez bu de cette journée, c'est un fait. C'est ce qui s'est passé, c'est une observation. Mais là, il faut vraiment qu'on essaye d'aller un petit peu plus loin dans le concept qui diffère entre le discernement et le jugement. Parce que c'est là que se trouve cette sensation de l'ego où on va pouvoir véritablement eh bien, faire sortir un petit peu de son terrier. Le discernement, bah, c'est simplement voir ce que les valeurs des autres ne sont pas identiques aux nôtres, donc qui sont différents. Et puis, bah c'est ok, c'est comme ça, on est tous différents, on aime tous des choses différentes, et à partir du moment où on se dit qu'il n'y en a pas de meilleur que d'autres, eh ben, ça marche comme ça, c'est ok. Par contre, juger, c'est exiger des autres qu'ils agissent selon nos propres valeurs à nous. Là, c'est plus pareil. C'est penser implicitement que nous ne ferions pas ainsi si on était à la place de cette autre personne. Et c'est cet implicite qui crée toute la difficulté à différencier une observation d'une critique. Donc cet ego-là, il n'est pas si facile à discerner complètement, à être vu par nous-mêmes, même quand c'est lui qui prend les commandes. Alors oui, on critique les autres en pensant ne faire que des observations, parfois. Et en plus, on le fait souvent, ce qui va enfler notre ego de plus en plus souvent. Et on va se sentir de plus en plus important au fur et à mesure qu'on critique. On va se sentir bien mieux, meilleur que les autres. Et ça, c'est vraiment de l'ego implicite. Alors que on va simplement se dire, non, je ne suis pas en train de juger, je suis en train de faire une observation, cette personne-là, elle fait de la merde. Bon, ben non. Parce que notre ego, est vraiment beaucoup plus grand et plus influent que ce qu'on peut même imaginer. Voilà. Mais il ne faut pas non plus désespérer. Parce que s'il a pris autant de place, c'est par amour pour nous. Parce qu'il s'est justement manifesté pour nous protéger. Et on protège par amour. Et il va s'activer dès que l'une de nos blessures a été activée. Alors, c'est un petit peu comme si on perdait connaissance à ce moment-là, conscience, ou qu'on n'était plus le maître, qu'on n'était plus le capitaine à bord du bateau, et qu'on laissait la barre à l'ego. Et l'ego, eh ben, il ne va pas refuser, il va prendre cette barre, et il va orienter nos comportements, et en même temps, il va nous faire sentir surpuissants. Donc on va en avoir envie de lui laisser la barre de plus en plus souvent, parce que c'est une sensation très confortable, cette super puissance, le fait de se sentir invincible, dans la raison totale, avoir raison. C'est vraiment très très confortable, c'est agréable. Et puis, voilà, on n'a pas envie de changer ça à partir du moment où on lui donne la barre. On n'a pas envie de la reprendre dans la seconde. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que l'énergie, elle va être dépensée, après on va se sentir épuisé. Mais en plus, l'ego va créer des blocages énergétiques, donc des affaiblissements qui vont se révéler par le corps, hein, au niveau du corps, pas au niveau du mental. Donc ce confort, finalement, eh bien, il se paye très très cher. On accumule la fatigue, on a de moins en moins de volonté pour reprendre la barre, donc c'est-à-dire qu'on n'est plus souverain, et on est dans un véritable cercle vicieux parce que eh ben, plus on est fatigué, moins on aura la possibilité d'avoir de la volonté et d'avoir de l'énergie pour se battre. Mais rien n'est perdu. Il existe quelques astuces pour repérer les pensées hein, qui sont d'origine de l'ego. Par exemple, quand il critique les autres, on sait que c'est une critique parce que dans l'implicite, hein, comme je vous le disais, on sent que eh ben, si c'était lui à la barre, il ferait mieux. Si c'était donc non seulement nous qui faisions à la place de cette autre personne, mais en plus si c'était lui qui nous commandait. Donc là, il y a plusieurs niveaux quand même. Quand l'ego parle, il va utiliser des mots comme « toujours », comme « jamais ». Donc par exemple, « jamais je ne ferai une chose pareille » ou alors « tu es toujours en retard ». Implicitement, dans ces deux exemples, on retrouve l'idée qu'il fait mieux. Tu es toujours en retard, ça veut dire, derrière, hein, moi je fais attention d'être à l'heure, moi, hein, parce que moi, je m'organise mieux, moi, voilà. Troisième indice, comme je viens de le dire, le moi-je. S'il y a du moi-je, voilà, c'est que l'ego a peut-être pris la barre. Quatrième indice, les mots comme mieux, meilleur, plus vite, plus fort, voilà, plus, l'ego adore utiliser le superlatif, et c'est comme ça, en fait, qu'on pourra le détecter. Souvent, cette impression hein, d'être Superman, enfin, l'ego se sent Superman. Cinquième indice, quand on utilise « il faut » ou « il faudrait », comme « il faudrait que je pense à tondre la pelouse » ou « ah ben, tu devrais, il faudrait que tu décores ta maison différemment », etc. Là, c'est direct, également un indice de la présence de l'ego à la barre et que c'est lui qui mène le bateau et qui parle à notre place. Sixième indice, l'usage du conditionnel. On l'a vu avec « il faudrait ». Mais aussi par exemple pour « tu devrais », « vous devriez ». Il y a quelques jours, il y a un voisin qui m'a dit « vous devriez mettre vos chevaux parce que sinon le terrain sera bientôt recouvert de ronces ». Et donc ce voisin est là depuis quelques mois. Alors, moi je connais bien ce terrain parce qu'on l'a défriché nous-mêmes. Il contient notamment une zone marécageuse. Et j'ai tenté de lui expliquer tout ça. Mais j'étais en colère. Et ça donnait une discussion, finalement, d'ego à ego. Donc, dialogue de sourds, hein, bien sûr. Parce que chacun voulait être le meilleur gestionnaire du monde de ce terrain-là, précisément. Au moins, meilleur que l'autre. Hein. Voilà. Et j'ai fini par comprendre que l'ego, c'était lui qui parlait et plus moi. Et je l'ai laissé en lui disant « Vous inquiétez pas, cher voisin, ne vous inquiétez pas. » Et j'aurais peut-être même pu le remercier finalement d'ailleurs parce que il m'avait présenté mon ego face à face directement. Faire encore mieux, il ne connaît pas, moi je ferai mieux, et puis lui aussi, hein, vous devriez, etc. Donc le superlatif, le conditionnel, les tu devrais, les même le j'aimerais. Voilà. Et d'ailleurs, oui, tout conditionnel cache une peur qui nous fait croire qu'on n'a pas le choix. Par exemple, il faut que je tonde la pelouse ce week-end. Ça va signifier surtout que j'ai peur de ce que pourraient penser les autres, j'ai peur du paraître, qu'ils me jugent, ben, moi, paresseux, ou qu'ils me jugent dégoûtant, ou ma propriété dégoûtante. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe si je ne tombe pas ce week-end-là, précisément? Dans le pire des cas, du pire, qu'est-ce qui se passe? On recontinue sur les indices, après cette petite parenthèse. Le septième indice. Donc, l'ego pense à ce qu'on doit faire ou doit avoir. Alors, quand je dis doigt, ça ne se voit pas, mais je mets des petites parenthèses, des petits guillemets avec mes doigts, justement. L'ego s'identifie à ce qui est fait et à l'acte de posséder. Donc, le faire et l'avoir. Parce que l'ego s'identifie à ça. Il croit qu'il est tous ses biens, tout cet argent, et même toutes ces étiquettes. Les étiquettes que l'on se met au niveau professionnel, donc le métier que l'on exerce, l'étiquette fille d'eux, épouse d'eux, mère d'eux, etc. Mais bien entendu, c'est pas ce qui va résumer ce que l'on est. On n'est pas tout ça, on n'est pas que ça, on n'est pas notre maison, on n'est pas notre voiture. Le titre mère de famille ou célibataire, tout ça, ça va pas nous définir non plus. Donc là aussi, on reconnaît que l'ego entre en scène quand une personne se présente à nous et nous dit d'office ce qu'il fait, sans qu'on lui ait même demandé. Bonjour, je suis le père du chef de l'État, le chef du président, voilà. Et bien, pouf, il se met une étiquette et on sait d'office que là, derrière, il y a l'inflation. Et l'inflation montre l'ego, on s'en souvient. C'est aussi à partir du moment où il y a une personne qui souhaite montrer l'intérieur de sa maison. Parce que, voilà, elle est bien rangée, elle est magnifique, elle a plein de déco. Et il ou elle cherche à recevoir des compliments, donc à être toujours dans l'inflation. Ou à mettre par exemple aussi des photos de notre corps dénudé sur les réseaux sociaux pour avoir l'attention, pour se faire remarquer. Tout ça, c'est de l'ego. Pourquoi ? Parce que l'ego, eh ben, il a besoin de quoi ? Il a besoin de reconnaissance. C'est son moteur, c'est ce qu'il cherche. Et cela peut passer par montrer eh bien, tout un tas de belles choses que l'on possède, ou aussi en se rabaissant volontairement, en faisant exprès, dans l'espoir que les autres vont nous flatter. Notre huitième indice, eh bien, justement, ça va être ce besoin d'être complimenté, de rechercher à être flatté, reconnu. Parce que ses besoins sont ceux de l'ego, pas de notre soi véritable. Lui, il s'en moque totalement. Il veut juste être ce qu'il est, tel qu'il est, sans accord de la part des autres ou de reconnaissance par rapport des autres. Parfois, on a tellement soif de reconnaissance eh ben, qu'on n'hésite pas à couper la parole à quelqu'un, à donner notre avis alors que personne ne nous l'a demandé, à donner des conseils. Par ailleurs, personne ne nous l'a demandé non plus. Et l'ego, il a besoin de prendre de la place, parce que plus on a de place dans la société, eh ben, plus on va être reconnu. Donc il a ce petit aspect de jouer les vedettes, quitte même à manquer de respect aux autres. Neuvième indice, sentir le besoin de se justifier, de se défendre, de s'expliquer, alors que là aussi, personne ne nous a rien demandé. Lise Bourbeau, dans un de ses ouvrages, donne l'exemple du retard. Quand on sait qu'on sera en retard, qu'on est coincé par exemple dans un embouteillage ou qu'on est resté trop longtemps dans un magasin sans regarder l'heure, sur le chemin, on va tout doucement commencer à préparer sa justification. Si besoin, on va essayer de trouver un petit mensonge bien ficelé qui tiendra le coup. Et bien là aussi, une telle réaction va cacher une peur inconsciente et donc l'ego. Dixième indice, l'ego vit constamment dans le passé. On s'en rappelle, hein, dès le début de cet audio, je vous ai dit qu'il se souvient d'une blessure, il se souvient d'une souffrance et fait tout pour nous protéger pour pas qu'on la revive. Donc il vit dans le passé et dans la peur du futur. Il nous protège parce qu'il a peur que cette souffrance revienne. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tout le temps rabâcher des c'était mieux avant, ou des eh ben, si seulement j'avais fait un autre choix, ou ben, comme on l'entend souvent, j'ai hâte d'être à la retraite. Il s'accroche à nos remords et à nos regrets. Il croit que notre souffrance est due aux autres et uniquement aux autres, hein, pas nous, pas lui. Et il va revenir encore et encore sur les moments difficiles de notre passé pour nous les refaire vivre. Tu vois, tu te souviens, hein, quand tu souffrais de ça, etc. Il faut pas que ça revienne. C'est pour ça que revenir à l'instant présent, c'est une technique très très efficace qui est donnée par énormément de courants religieux, de développement de soi, parce que ça permet de ne plus être dans les jeux de l'ego, ni dans le passé, ni dans le futur. On est dans le présent, du coup, il va perdre prise sur nous. Et nous, de notre côté, nous allons l'explorer grâce à la pleine conscience. Ce qui va nous permettre de faire attention à tous ces moments où l'ego nous fait dévier pardon, du présent pour revenir dans des moments peu agréables du passé ou dans ses peurs du futur, cette anxiété. Donc être au présent, présent à soi, à ce moment-là, permet de sortir de tous ces aspects de l'ego qui vont avec lui, le jugement, la dualité du bien ou du mal, la comparaison, l'ingérence, le besoin de reconnaissance, les croyances, les devoirs, etc., etc. Tous les petits bagages qui vont avec l'ego à partir du moment où on est dans l'instant présent, avec la pleine conscience notamment, eh bien, tout ça ne peut plus avoir de prise. L'ego n'a plus de prise, tous ces petits bagages qui vont avec, non plus. Donc voilà, nous en sommes à 10 indices. On va vite récapituler pour voir à quel point l'ego peut être beaucoup plus présent dans notre vie que l'on ne pensait. Donc, 1, il critique. 2, il dit toujours, jamais. Et donc, ces critiques, hein, elles ont comme ça un goût d'absolu. 3, il pense moi-je. 4, il aime utiliser les superlatifs. Non seulement toujours et jamais, mais aussi mieux, meilleur, etc. Et c'est un petit peu comme s'il se vantait. 5 et 6, les devoirs, les je dois, et le conditionnel, les devrait, faudrait, etc. Il nous fait croire finalement qu'on n'a pas le choix. 7, il nous fait croire que l'on est uniquement ce que l'on a, comme une belle voiture, ou ce que l'on est en termes d'étiquette, donc au niveau de nos rôles. 8, parce qu'il a soif de reconnaissance, c'est pour ça qu'il se vante. Donc il voudrait être acclamé constamment, entendre dire que oui, c'est lui le meilleur, qu'il est très très bien en capitaine de bateau. Mais si jamais, eh bien, nous avons une maison plus petite, eh bien, on va se convaincre qu'en fait, on ne voudrait pas une maison plus grande. Parce que l'ego, il est toujours dans le Superman, hein. Donc il va nous faire croire que c'est même un choix. Alors que parfois on n'a pas le choix, on ne peut pas s'acheter une plus grande maison. Mais il va justifier ah ben non, je veux pas faire une grande surface de ménage, que l'ambiance elle est pas assez cocooning parce que c'est trop froid, etc. Il va trouver plein, 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 plein de justifications. 9. Donc l'ego a besoin de se justifier quand il ne peut pas se vanter. Il va se convaincre que son choix était de toute façon le meilleur. Alors, quand l'ego est vraiment enflé, on en vient à appeler ça de l'orgueil. C'est la croyance qu'on est au-dessus des autres, que nos valeurs sont les meilleures et que les autres, eh ben, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient vraiment adopter pardon, ces valeurs-là. Et puis, comme c'est bon pour eux, eh ben, nous, on va même chercher à leur imposer. Donc, l'orgueil, c'est cet ego-là qui va même hausser le ton pour convaincre. C'est pas seulement se croire le meilleur, mais il veut que les gens le voient que c'est lui le meilleur. Donc, à partir d'un moment, ça ne lui va plus de nous avoir juste convaincus, nous, il veut même convaincre les autres. Il veut étendre son succès à d'autres personnes. Seulement là, il va se frotter aux autres égos. Et on trouve souvent cet orgueil dans le monde du développement personnel, hein, malheureusement, et dans la spiritualité. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en s'éveillant, on risque de tomber dans ce qu'on appelle l'ego spirituel, là aussi entre guillemets, et on va se croire donc éveillé, donc mieux que les autres, parce qu'il y a eu cette prise de conscience. Alors l'orgueil nous pousse à vouloir que les autres s'éveillent aussi. Et s'ils ne le font pas, et ben pourquoi? C'est parce qu'ils sont inférieurs. On dit par exemple, que ce sont des moutons. Donc là, c'est le summum de l'ego spirituel. C'est encore vouloir que les autres agissent comme notre ego voudrait les voir agir, en nous convaincant que c'est pour leur bien, on fait ça pour eux. Mais plus nous sommes orgueilleux et ingérants dans la vie des autres, moins nous avons de compassion et moins il est agréable de faire cette vie collective de la communauté, de vivre en commun. Parce qu'on n'est plus dans ces valeurs qui font le lien, qui sont la colle, comme le véritable amour. Le véritable amour, c'est celui qui accepte les autres, pas celui qui veut faire qui veut les faire changer, même en disant qu'il les aide en faisant ainsi, même en disant que c'est pour leur bien. Donc ce manque d'amour pour l'autre, quel qu'il soit, reflète un manque d'amour tout simplement pour soi, quel qu'on puisse être nous-mêmes. Donc un manque d'estime de soi. Et cela provient d'où ? Cela provient de nos blessures. Plus nos blessures sont intenses et fréquemment activées, donc fortes et souvent, plus notre ego va se développer, plus il va prendre de la place en pensant faire ça pour notre bien, pour nous protéger. Alors, reconnaître et prendre soin de nos blessures va donc nous permettre de diminuer l'ampleur de notre ego sur nous et peu à peu de retrouver notre soi authentique. Mais bien entendu, on va passer aussi par cette phase d'ego spirituel. Ce n'est pas grave, c'est ainsi. Il faut passer par redécouvrir sous la couche de charbon de noir le diamant véritable. Sous le jugement, c'est là que se trouve l'amour inconditionnel. Donc vous pouvez voir que l'enjeu de cet atelier est absolument immense. Et en tout cas, je suis très honorée de votre présence et du travail que nous allons accomplir ensemble parce que, nous allons pouvoir couper l'énergie donnée à l'ego, diminuer et retrouver cette compassion et cet amour véritable en s'occupant de nos blessures. Je vous remercie d'avoir suivi cet audio et je vous dis à très vite pour la suite.